Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Ben, nous allons consacrer ce quart d'heure à Michel Peyramort, qui est décédé il y a quelques jours à Brive. Voilà, je l'ai rencontré, à une époque, un bon souvenir. C'était quelqu'un de très agréable avec qui l'on pouvait parler de beaucoup de choses. Alors, Michel Peyramort, je vais reprendre sa biographie rapidement, mais il est né à Brive en 1922, donc il avait 101 ans. Et puis, donc, il va faire des études secondaires, et ensuite il va travailler dans l'imprimerie paternelle. Et puis, bon, mais ça l'agace un peu. Je crois qu'un de ses professeurs dira que c'était, un cancre de génie. Voilà, ce qui était bien possible. Alors, donc, il va travailler, subtiliser quelques journaux dans l'imprimerie, il va les vendre pour se faire un peu d'argent de poche. Et ensuite, aux environs de la quarantaine, il renonce à diriger l'imprimerie paternelle et devient journaliste à part entière à Brive Information, France Presse et La Montagne. Et il prend sa retraite en 1987. Je rappelle qu'il était quand même né en 1922. Alors, il va publier un premier roman en 1953, Les Paradis entre quatre murs, bon, qui n'aura pas un grand succès. Puis il va y avoir Le Bal des Ribauds, réédité en permanence, et il ouvre la voie du roman de l'histoire, un genre auquel il n'a jamais renoncé. Il est auteur à ce jour, je crois, d'une centaine d'ouvrages, la plupart attachés à l'histoire, certains autres de caractère régional, comme L'Orange de Noël, Les Flammes du Paradis, dont on va reparler, son principal titre de fierté, Modeste, et son livre sur Napoléon, écrit sous forme de roman, une première tentative de son genre, et ça fait quand même 1200 pages en deux volumes. Alors, pour sa vie, normale, il est marié, père d'une fille, Martine, qui est conservateur du patrimoine et écrivain. Voilà. Donc, elle a hérité de la, de la veine plumatique de son père. Il y a plusieurs romans, on a vu sur la préhistoire, qui se déroulent en Périgord. Et il y a également plusieurs de ces romans, dont par exemple Les Tambours Sauvages, qui sont édités par François Zir, ce que j'ai sous les yeux, en 1993. Ce livre se passe en partie dans la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Canada actuel. Alors, voilà ce qu'il nous dit pour l'écriture de ce livre. Pour écrire Les Tambours Sauvages, je me suis imposé un interdit, ne pas relire Maria Chapdelaine, les romans de Kerouac, de Cooper, de London ou de Bernard Clavel. En guise de bagage, je ne voulais dans mes cales que de l'irréfutable, du solide, des documents qui tiennent la route. Ces auteurs que j'admire et que j'aime, mon ami Bernard surtout, je les ai volontairement laissés au placard ou pour mieux dire au rayon supérieur de ma bibliothèque comme simple symbole tutélaire. Alors, pendant des années, persuadé qu'il me faudrait un jour ou l'autre retourner à Canada, comme l'on disait sous Louis XIII, j'ai fouillé les librairies d'occasion, compulsé les catalogues et acheté souvent à prix d'or des ouvrages rarissimes. Récits de voyageurs, relations de missionnaires, ouvrages d'historiens de l'époque, en m'efforçant de me situer dans un juste milieu entre les exagérations notoires des témoins et ce qui semblait être plus conforme à la réalité entre les observations des jésuites et des sulpiciens qui se détestaient cordialement et celles d'aventuriers, plus ou moins trafiquants d'eau et de feu. Le lait du roi de France qui organisait leurs magasins de fourrure, mais incitait les sauvages à un délire meurtrier. Voilà, voilà ce qu'il nous dit. Alors, ce livre, il prend, racine en Dordogne. En Périgord, à l'époque, bien évidemment. Et là, on va retrouver des personnages de l'histoire de notre région. Voilà, alors ce qu'il veut nous dire, par exemple, c'est la gouvernante qui, au petit matin, vint les réveiller. Elle entra en coup de vent dans la massade, secoua l'épaule du chanoine, qui s'était endormi dans son fauteuil près de son télescope. Il se leva lentement, frotta les yeux rouges et s'éloigna vers l'escalier d'un pas d'aveugle dans la lumière du petit jour qui sentait la poussière froide. Là, on va revenir sur Sarlat. Sarlat, dans la chaleur du printemps, se repliait sur la spirale de ses vieux quartiers comme dans une coquille. Parfois, au sommet d'une tour de guet, une corne sonnait pour signaler la présence dans les parages de bandes de paysans venus clamer leur détresse aux portes de la ville ou quelques tribus de bohémiens qui arrêtaient leur roulotte dans les guérets de la Cluse. Alors, la Cluse ou la Cuse, ben, c'est un petit ruisseau qui traverse Sarlat et qui servait d'égout à l'époque. Alors Catherine et Denis oubliaient peu à peu leurs émotions, ils avaient maintenant un passé, eux qui venaient de rien, et cela leur conférait à leurs propos, à leurs propres yeux, une certaine importance. Alors Chanoine Gentarde, donc, revient à lui. Alors Gentarde est originaire de la Roque-Cajac, sur les bords de la Dordogne, et c'était un savant de l'époque. Alors, donc le chanoine Gentarde avait enfin trouvé le meilleur moyen de les faire voyager jusqu'à Paris. Ils attendaient la confirmation de la nouvelle sans impatience, persuadés que cette expédition lointaine et aléatoire marquerait le terme d'une ère de bonheur paisible. Catherine et des Maria, alors ce sont des, bien sûr des personnes qu'on retrouve dans ce roman, ont soin du ménage, de la cuisinière, Denis quand il ne s'occupait pas du jardin potager. Allez, braconner quelques truites pour agrémenter l'ordinaire qui était spartiate et passer son temps libre à flâner dans Sarlat, autour de la cathédrale Saint-Sacerdoce, dont on achevait la construction. Parce que Gentarde demanda à Gauthier de Coste de la Calprenède, alors Gauthier de Coste de la Calprenède, ça l'écrivait, donc du temps de Louis XIII, et qui était originaire du château du Toulgou à Salignac. Alors donc, la Calprenède, il en permettait d'amener les deux enfants avec lui à Paris. Donc ces deux enfants sont bien sûr les héros de ce roman qui se passera ensuite au Canada. À Paris, donc, il l'amène à Paris, il amène le jeune gentilhomme, ne se fait guère de difficultés, demandant à être simplement défrayé de la nourriture. Il revenait d'un séjour à Toulouse, où il s'était perfectionné dans la pratique des armes et celle des beaux esprits, avec une préférence pour la fréquentation des muses sur celle des duellistes. Ses 20 ans lui faisaient obligation de choisir, mais il attendait d'être à Paris pour savoir si la compagnie des poètes valait celle des hommes d'armes. Le chanoine conduisit les enfants au soir tombé en rasant les murs à l'hôtel de la Calprenède, une bâtisse sagrade à la façade ornée d'un cadran solaire armorié, œuvre du chanoine de Tarte qui se livrait à cet art, à ces moments perdus. Alors, l'hôtel La Calprenède, ce qu'on sait ça là, c'est du côté de la petite Rigaudie où il y a le monument, aux morts, et le cadran, ben, existe toujours. Alors ensuite, je vais reprendre la lecture, ils trouvèrent Gauthier occupé à mettre de l'ordre dans un monceau de livres et de paperasses. C'est un garçon élégant et raffiné, au poil brun de sarrasin, au teint hâlé, barré d'une moustache de mousquetaire. Le bleu tant de regard démentait l'expression un peu sévère de ses lèvres. Il considéra les enfants avec une attention soutenue en se grattant le menton avec sa plume. « Eh bien, dit-il, sans conviction, nous sommes d'accord. Vous serez mes compagnons de voyage. J'espère ne pas me repentir de ma décision. Nous passerons par Louversac afin que je puisse rendre compte de l'état des lieux et en faire un rapport fidèle à mon ami Laurent. Nous partirons demain à la pique du jour. Pardonnez-moi de vous donner congé aussi cavalièrement, mais je n'ai pas fini avec mon rangement. Tâchez de bien dormir. Demain, la route sera longue. » Ce soir-là, le chanoine resta une heure seulement à sa lunette pour ne pas troubler le sommeil de ses pensionnaires. Mais avant de se retirer, il s'agenouilla entre les deux paillasses et se mit à prier en silence, les mains croisées sous le menton. Quand il se releva, Denis, qui ne dormait pas, lui dit « Merci, monsieur le chanoine, merci pour tout. » Il chercha la main du vieillard pour le porter à ses lèvres. Alors, bien sûr, ils vont faire le voyage. On va pas faire toute la relatation de ce voyage. Et il y a un autre livre qui est Les Flammes du Paradis. Alors, Les Flammes du Paradis, ben, ça nous entraîne chez les maîtres de forge dans le nord de la Dordogne. Alors donc voilà, il y a une des héroïnes qui revient chez elle, en quelque sorte. Voilà, alors voilà ce qu'ils vont dire dans ce roman, donc « Les Flammes du Paradis », qui est un roman paru chez Robert Laffont, et je crois que c'est de 1963. Voilà. Alors, c'est dans un large pli de la colline, au milieu des prairies et des champs de maïs, un endroit idyllique, sous les murs gris d'un four à chaud. Une pente légère mène à une large et profonde source vauclusienne, au débit constant. Je m'approchais du bord, d'où se détachaient des roches plates qui s'étiraient au-dessus d'une vertigineuse profondeur d'eau froide et limpide, couverte par endroits d'herbes aquatiques. Affirmer que ce gouffre n'avait pas de fond, Sylvain qui en avait davantage éclairci pour moi ce mystère, la touve, qui jaillissait à quelques pas en aval, dans un frisolis de lumière et d'herbe, était le fruit du mariage des deux rivières du Périgord, le Bandia et la Tardoire. Alors, si vous connaissez un peu la région, donc le Bandia et la Tardoire vous donnera l'emplacement précis donc de ces flammes du paradis. Alors j'imaginais ces noces souterraines, ces étreintes d'eau vive, ces enlacements de muscles placés dans le noir de la terre, cette lente et perpétuelle copulation de mollusques et dans ce berceau profond, la naissance d'une eau nouvelle, toujours fraîche, toujours abondante, malgré la rigueur des étés. Alors, en ce moment où on parle de sécheresse, c'est peut-être bien qu'il y a encore des cours d'eau qui peuvent alimenter. Alors, je vais reprendre un tout petit peu cette lecture. Donc, les flammes du paradis. Pierre n'avait fait aux forges de Gandumas, puis des Aisiques, de brefs séjours, mais à profit pour se perfectionner, attiré par la renommée du domaine de la Durancy, qui produisait 20 000 sacs de blé par an. Alors, domaine de la Durancy, je crois que c'est du côté d'Exideuil. Alors, on disait que Bugeaud avait quitté pour aller guerroyer en Afrique. Il y avait séjourné le temps des grands travaux, peinant, mais pour un bon salaire. Il avait observé attentivement l'organisation et le fonctionnement de cette ferme où s'élaborait une race bovine limousine qui faisait admiration du pays. Tout un printemps, tout un été, il s'était embauché chez un patron tuilier, Saint-Pardoux-le-Neuf, en Creuse, passant d'un chantier à un autre, poussant jusque dans les terres grasses de l'Allier, devenu chef de brigade d'une demi-douzaine d'ouvriers. Il avait si bien su se faire apprécier que son patron avait souhaité le prendre pour gendre et associé. Pierre remercia, écarta cette offre alléchante, alla travailler comme sieur de l'eau dans un chantier forestier, puis à la faïencerie de Thiviers, avant de se retrouver dans un creux de pays près de Juillac, en Corrèze, à faire du charbon de bois. La mort de son père avait ramené à la métairie des Mirandes, qui avait trouvé dans un état tellement pitoyable qu'il avait renoncé à s'y fixer. Cette activité anarchique témoignait de la part de Pierre d'un désarroi auquel je n'étais pas étrangère. Il terminait sa lettre en me disant à peu près « Je ne suis pas un homme de la terre, ma voix est ailleurs, elle a pris des sens à la forge, elle doit m'y ramener. Le malheur, c'est que mon état de fortune ne m'est pas permis d'entrer à l'école des mines de Saint-Étienne. » Voilà. Alors, un peu s'il avait... Bon, on va poursuivre un tout petit peu. Alors, elle revient au paradis. Alors, voilà ce qu'elle va nous dire. L'odeur était là, vivante, tenace, inchangée. On peut débarrasser un logis de ses meubles, de ses vêtements. L'odeur des lieux persiste comme si le mur en était imprégné en profondeur. L'odeur du paradou, je la reconnais 30 000, non qu'elle soit agréable, au contraire, au milieu du vestibule, pavé de galets gris et bleu verni par les semelles et les motifs en forme de cœur et d'étoiles, je m'arrête et les yeux clos, je la respire. C'est un mélange insolite de cuisine de campagne, de soupe froide, de fumée, et venant de la salle à manger et du salon, de celle plus discrète comme intime des vieilles étoffes recouvrant des sièges et des tentures avec une fragrance délicate de tabac. En contrepoint, légère comme une toile d'araignée, l'odeur de toutes les demeures abandonnées, celle des musées. Alors, je vais m'arrêter là, cette lecture. Je pense qu'on doit arriver au bout du quart d'heure qui m'est destiné. Donc, voilà, donc cette fille va visiter les flammes du paradis. Et donc, ça a été édité par Robert Laffont. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 1963. Donc ce sont des livres, évidemment, de Michel Peyramont, mais qui se déroulent en Périgord, qui était tout proche. Voilà, mais écoutez, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. N'ayez pas trop froid, parce que la température n'est pas trop chaude. Et à bientôt.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.